Les livres ont la parole, une émission mensuelle chaque deuxième mercredi du mois de 16h30 à 18h. On y parle de livres et de ceux qui font les livres, auteurs, imprimeurs, éditeurs, libraires, lecteurs. Une émission proposée, préparée et présentée par Jean Darroux sur Fréquence Mistral. Et c'est tout de suite. Bonjour Jean.
Bonjour. Donc aujourd'hui, on reçoit deux invités, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc on reçoit un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « Porteur de rêves », qui est donc Daniel Berthet. Bonjour Daniel.
Bonjour Jean, bonjour Odile.
Voilà, et on reçoit conjointement Monique Etienne, vice-présidente de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour Monique.
Bonjour.
Voilà, donc on parlera de ce livre qui nous amènera aussi à l'association. On verra quel est le lien entre les deux, en particulier dans des actions militantes. On verra ce que le livre apporte à l'association. Hein, donc, Daniel, vous êtes écrivain, vous êtes quoi? Parce que ça fait plusieurs livres que vous écrivez.
Je ne suis pas du tout écrivain. Oui. Non, je suis artisan romancier.
D'accord.
J'écris des romans, c'est le quatrième, celui-là, et ça ne fait pas très longtemps, puisque ça fait depuis 2008 que j'écris. Parce que quand j'étais étudiant, j'étais plus porté sur les chiffres que sur les lettres.
D'accord.
Donc, je suis devenu professeur de gestion et expert comptable. Et puis, il est arrivé un moment dans ma vie où il y a eu un besoin d'écrire. Alors, j'expliquerai peut-être ça tout à l'heure. Et j'ai fait un premier livre, un deuxième.
Un troisième et un quatrième.
Donc, on présente aujourd'hui le quatrième. Oui. Mais il y a un lien entre les quatre livres parce que j'ai toujours travaillé sur l'injustice.
D'accord.
L'injustice avec un grand « i ». Contrairement à la justice avec un petit J. Donc le premier livre, je vais peut-être expliquer un petit peu la progression. Le premier livre, c'était un livre sur une erreur judiciaire. Mm-hmm. Et vous savez que c'est terrible que pour des innocents de se retrouver confronté à la justice avec un petit J quand on est innocent et qu'on doit se battre contre une société. Donc ce premier livre a été fait sur l'erreur judiciaire. Le deuxième livre porte sur l'injustice sociale, la différence entre les classes sociales et puis les conséquences que cela peut entraîner. Il s'appelait « Justice au point ». Le troisième livre porte sur l'injustice qui a été faite aux femmes au fil des siècles et le cadre se trouve sur Digne, puisque ça se passe dans la cathédrale de Digne. Ce troisième livre s'appelait « L'anneau de Saint-Jérôme ».
D'accord.
Et le quatrième livre porte toujours sur l'injustice, et cette fois-ci, c'est l'injustice de la colonisation et le besoin de décolonisation par les peuples qui sont colonisés, donc tout ce que ça entraîne comme séquelles, comme souffrance sur les différentes communautés.
Oui, parce que le titre, c'est « Porteur de rêve », c'est un joli titre. Hein. Enfin, on pense à « Porteur » aussi de valise. La « Porteur de rêve », donc on imagine qu'on va vers quelque chose de positif. Et le sous-titre, c'est « D'une rive à l'autre, Algérie, France ».
Oui.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre et quel était le, bon, alors, quelle était la volonté et quel est le message, en gros, de ce livre?
Alors, d'abord le titre, « Porteur de rêve », parce que je crois qu'on est tous porteurs de rêve. Quelle que soit notre situation, mais lorsqu'on est en guerre, on est encore plus porteur de rêves, parce qu'on a besoin de retrouver la paix. Et il est
sauf
extrêmement...
qu'on n'a pas tous les mêmes rêves, hein, je pense.
Voilà, c'est... bien entendu, quand il y a rêve, il y a diversité des rêves. Et bien entendu, c'est assez difficile de rêver quand on se bat. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut toujours rêver quand même un petit peu. Donc, porteur de rêve, c'est pour cela. Et puis, d'une rive à l'autre, parce que il y a entre l'Algérie et la France des liens importants, des liens liés à la colonisation, mais aussi ce sont des peuples frères et qui se sont battus. Et les Algériens sont les Français d'abord sont allés en masse en Algérie, et puis les Algériens sont venus en France, que ce soit pendant la guerre ou après la guerre. Donc on est bien d'une rive à l'autre. Au départ, je voulais appeler ce livre « Destin croisé », mais je me suis aperçu qu'il y avait déjà des romans qui s'appelaient « Destin croisé ». Donc j'ai changé de titre.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites des frères, des peuples frères. Alors, des frères, c'est normal qu'ils se battent.
Oui.
Moi, je suis plus intéressé par l'Algérie et la France, qui sont deux sœurs. Et je trouve que c'est un rapport plus intéressant. Les garçons, ils se battent tout le temps entre frères, oui. Donc c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est la relation entre deux sœurs. Ça, c'est autre chose. Voilà. Entre oui. la France et l'Algérie, je pense que c'est une autre notion à travailler. Alors, dans ce livre, il y a un certain nombre de personnages qui se croisent. C'est pour ça que vous pouviez appeler ce livre « Destin croisé » et qui racontent un vécu qui est relatif à la guerre d'Algérie, en grande partie.
Voilà, oui. Et j'ai voulu prendre dans ce livre une certaine distance par rapport à la guerre. J'ai pas voulu être partisan. J'ai voulu me placer un petit peu au-dessus et regarder un petit peu toutes les communautés et les voir évoluer. Donc, il y a bien entendu les Algériens, le peuple algérien. Il y a parmi les Algériens les Harkis, qui ont souffert aussi. Il y a l'armée française qui a été engagée. Et puis, il y a le gouvernement français aussi. Et puis, le peuple français aussi qui a souffert aussi. Et puis, il y a ces gens aussi qui ont été obligés, par leurs convictions, de porter des valises.
Oui. Il faudra qu'on explique ce que c'est ouais. porter les valises, parce que c'est, voilà. je veux dire, pour ceux qui ont une connaissance et qui ont une connaissance militante de cette guerre, mais sinon les gens savent pas bien ce que c'est. Alors les porteurs de valises, on peut dire ce que c'est.
Alors rapidement, les porteurs de valises, ce sont des Français qui ont eu besoin de, pour leurs convictions, qui étaient favorables au décolonialisme et qui se sont mis au service du FLN, le Front de Libération Nationale oui. algérien, et qui ont rendu des services au FLN pendant la guerre d'Algérie. Mmh. Donc, qui pouvaient être considérés comme des traîtres en France, qui ont d'ailleurs été jugés pour la plupart, qui ont été condamnés à de la prison. Et qui ont fait ce travail, qui est un travail de juste, à mon avis. Mmh. Aujourd'hui, je me permets de le juger comme ça.
Oui, à l'époque, c'était effectivement considéré comme des traîtres. Et souvent, ils avaient non seulement parfois des condamnations, mais ils payaient assez souvent de leur vie, parfois.
Peut-être, voilà. Oui. Alors, bien entendu, le chef des porteurs de valises, c'était Francis Janson.
Francis Janson, oui, du réseau.
Peut-être réseau l'occasion Janson. De reparler.
Du réseau Janson, oui.
Voilà, du réseau Janson,
qui a beaucoup aidé
le FLN. Donc, j'en parle un petit peu.
Il y avait Curiel aussi.
Oui.
Il y avait un certain nombre de gens, oui. Voilà. Alors, dans ce livre, on a plusieurs personnages et qui racontent ou qui revivent les choses.
Qui revivent les choses, voilà, tout
à fait. En particulier, on a un parachutiste.
Voilà, le livre commence comme ceci. Voilà. C'est un parachutiste qui a environ 70 ou 75 ans, en 2009, qui se trouve à l'hôpital de la Timone à Marseille, qui a des problèmes rénaux et qui sent que sa vie commence à s'en aller. Et il se revoit pendant la guerre d'Algérie, avec toutes ses convictions, puisqu'il s'était engagé dans la guerre, dans l'armée, en voulant quitter le monde paysan, et puis en étant très fier de porter l'uniforme des parachutistes. Mmh. Et il pensait, quand il est monté au front en Algérie, c'était la gloire pour lui d'aller se battre dans le Djordjera pour combattre ceux qu'on appelait à l'époque les Fels, c'est-à-dire les Felagas, les rebelles algériens. Mmh. Et il en était très fier, c'était un parachutiste, on ne pouvait pas lui demander plus que ce raisonnement-là. Et puis, donc, il raconte en particulier les corvées de bois. Mmh. Alors, les corvées de bois, c'était lorsque on voulait exécuter des Algériens et qu'on les emmenait dans un camion GMC au milieu d'une forêt et puis qu'on terminait l'exécution dans la forêt.
D'accord. Et donc, dans cette histoire, il y a un moment où il ne tue pas son prisonnier.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience
Alors, on peut se poser la question au départ qu'il a une prise de conscience subite, qu'effectivement, tuer comme ça froidement un Algérien, un prisonnier qu'on vient de torturer pendant 3 jours, c'est une prise de conscience. Et là, après, au niveau du livre, on s'aperçoit qu'il n'a pas tellement cette prise de conscience. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au lieu de tirer sur la victime, il tire en l'air. Et à partir du deuxième chapitre, on retrouve cette victime, qui est un gamin qui a 16-17 ans, qui lui a été pris dans une rafle et qui se retrouve prêt à être exécuté et qui s'aperçoit d'un seul coup qu'il est miraculé parce qu'il n'est pas exécuté. Et il va nous raconter un petit peu sa vie. Et à partir de là, on va rencontrer différents personnages, que ce soit côté algérien, que ce soit côté français, qui vont nous raconter un petit peu leur misère. D'accord. Alors par exemple, tout à l'heure, j'ai oublié de parler des pieds noirs, parmi les communautés françaises qui ont souffert aussi en Algérie. Et on va retrouver ce garçon est un enfant abandonné. Et en plus, il a la malchance d'avoir la couleur de peau noire. Donc il a été rejeté dans son village. Donc il est rejeté dans son village, il est torturé par l'armée française. Et puis il trouve un jour, il rencontre un vieux poète qui a perdu la vue, mais qui voit très loin quand même dans les âmes des gens qu'il rencontre et qui lui dit « Ta mère est quelque part en Algérie encore, elle s'occupe d'un bordel parce qu'elle a été prostituée. »
D'accord.
Donc il se met à la recherche de cette mère et c'est là qu'il va être pris dans une rafle et que va commencer son histoire par rapport à la guerre d'Algérie.
Alors donc il y a un certain nombre de vies qui se... C'est assez passionnant parce qu'il y a tout un tas de vies particulières qui se croisent c'est la petite histoire dans la grande histoire. Mais par contre, ce que je voulais savoir, c'est pour parler de cette situation, l'Algérie pour vous, c'est quelque chose. Il y a un lien. Vous avez un lien particulier avec l'Algérie parce que il fallait un petit peu s'intéresser au sujet, avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir donner la parole à certains.
Avant de répondre à cette question, je voudrais préciser quelque chose. C'est que aujourd'hui, c'est le centenaire de la guerre de 14-18. Et on voit qu'il sort beaucoup de livres sur la guerre de 14-18. On en est pratiquement très fiers, même de parler de la guerre de 14-18. On parle aussi de la guerre de 39-45, puisque c'est aussi le 70e anniversaire de la libération. Alors, on en parle un peu moins fièrement, mais on en parle quand même. Mais on sent qu'on a une certaine culpabilité. Et puis, j'ai regardé un peu cette année les bouquins qui pouvaient sortir sur la guerre d'Algérie, parce que c'est le 60e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie.
De la lutte armée par le FLN.
Exactement.
Toussaint 1954.
Oui. Toussaint 1954. J'ai pratiquement pas trouvé de romans qui sont sortis sur cette période-là. On a l'impression qu'il y a un tabou, qu'il y a une certaine honte en France, aujourd'hui encore, à parler de la guerre d'Algérie. Donc pourquoi moi j'étais amené à parler de ce sujet ? C'est parce qu'en 1960, j'avais 12 ans. Et j'avais un frère qui avait 15 ou 16 ans. Et mon père, je me rappelle, avait toujours peur qu'il soit pris pour partir à la guerre d'Algérie. Parce qu'on était à la campagne, donc on était des gens soumis. Il n'était pas question de ne pas faire l'armée. C'est inconcevable. L'histoire des porteurs de valises, on ne savait pas ce que c'était, bien entendu. Refuser l'armée, être objecteur de conscience à la campagne, c'était absolument impossible de...
Donc, oui, il fallait être dans un milieu déjà militant, plutôt un milieu ouvrier, dans les grandes villes.
Moi, j'étais dans un milieu paysan, et donc on se conformait à ce que nous imposait l'État. Et mon père avait toujours peur que mon premier frère parte en Algérie. Donc on avait cette conscience de la guerre d'Algérie qui nous attendait au coin de la rue. Et en 62, par chance, il y a eu les accords de paix. Et moi, je suis parti en Algérie en 1971.
D'accord.
En tant que coopérant, parce que je ne voulais surtout pas faire l'armée. Et j'ai eu la chance d'avoir un poste de coopération militaire donc en Algérie. Je suis devenu professeur là-bas. C'est d'ailleurs là qu'est née ma vocation d'enseignant.
D'accord. Donc vous avez un lien particulier avec l'Algérie.
Oui, j'ai un lien particulier, d'autant plus que j'ai rencontré mon épouse en Algérie, qui est algérienne. Donc j'ai gardé un petit peu un lien particulier avec l'Algérie. Et ce qui m'a surpris lorsque je suis arrivé en Algérie, parce que juste avant de partir en Algérie, il venait de sortir les livres de Yves Courrières.
Oui, oui.
Les Fils de la Toussaint. Oui. Il y avait 4 volumes, je me souviens. Et avant de partir, j'ai voulu lire ces livres. Et quand j'ai terminé les livres, j'ai dit, je ne sais pas où je vais, mais je pense que les Algériens doivent avoir beaucoup de haine vis-à-vis des Français. D'autant plus que je connaissais quand même l'histoire de l'Allemagne et de la France et je voyais la haine qu'il y avait vis-à-vis des Allemands à l'intérieur de la France. Donc j'imaginais que c'était la même chose en Algérie. Et je suis arrivé très surpris. On m'a d'abord offert à boire. Dès que je suis arrivé dans un bar, ça me surprenait. Et puis j'ai trouvé des gens très accueillants et qui voulaient absolument oublier la guerre d'Algérie.
Oui.
qui ne pensait qu'à l'avenir. Il y avait une jeunesse qui était formidable parce que, elle, d'ailleurs, l'Algérie était à ce moment-là un des pays leaders au niveau...
comment on appelait ça
des pays non alignés. Pays non alignés, voilà. C'était une période formidable. Il y avait un espoir en Algérie et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc... ça m'a vraiment marqué cette période de l'Algérie en tant que coopérant. Et en plus, comme mon épouse,
j'ai
rencontré à ce moment-là.
Vous avez ramené l'Algérie avec vous.
J'ai ramené un petit peu l'Algérie avec moi. Et donc, j'ai toujours gardé ce lien avec l'Algérie. Et puis, j'ai vu l'évolution aussi de l'immigration. Et toujours ce... ce racisme latent qui, vis-à-vis des Algériens, qui est peut-être accentué encore ces dernières années avec les guerres civiles qui se sont passées en Algérie. Donc on est, je crois, avec l'Algérie, deux peuples frères, mais qui s'encagnent en permanence.
Voilà. Peut-être qu'on va, alors, on essaiera de choisir un petit extrait pour donner un goût. Un peu de goût, mais on va peut-être écouter un petit peu de musique. Puis on reparlera alors avec Monique aussi et vous deux du rôle. Pourquoi ce livre, bon, on vient d'expliquer en grande partie pourquoi et ce qu'il y avait dedans. On expliquera un petit peu le lien qu'il y a entre l'association et le livre et ce que vous voulez en faire. Voilà, on écoute un peu de musique.
Pourquoi cette fanfare quand les soldats par cas attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi, chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit, pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer.
Oui, alors pour moi, c'est une chanson importante parce qu'elle est contre toutes les guerres. Monique me dit qu'elle a été interdite pendant la guerre d'Algérie. Ça me surprend pas. Comme Le Déserteur, il y a un certain nombre de chansons qui déplaisent au pouvoir. Mais cette chanson, elle est surtout faite de questions. Il n'y a que des pourquoi à l'intérieur. Et il y a une réponse chaque fois. On n'ira plus au bois parce que la colombe est blessée. Et on n'ira plus au bois parce qu'on a tué la colombe. Et donc, la paix... on ne peut pas l'avoir pendant la guerre, ce n'est pas possible. Tant qu'on part en guerre, on n'a pas la paix. Et il vaudrait mieux trouver des solutions avant de déclencher la guerre. Et c'est toujours possible. En Algérie, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça a été une guerre inutile. Et concernant la France, si on avait su négocier avec le peuple algérien avant 1954, si on n'avait pas fait le massacre qu'on a fait en 1945 à Sétif, je pense, si on avait donné aux Algériens l'honneur qu'ils devaient avoir et la nationalité française, je pense qu'on n'aurait jamais abouti à cette guerre. On aurait eu des négociations qui auraient pu être intéressantes et qui auraient profité à la France. Et j'ai un exemple particulier là-dessus, c'est en 1988 avec la Nouvelle-Calédonie. Vous vous rappelez du massacre
des Kanaks,
voilà, dans la grotte où on a tué 18 personnes et on partait vers la guerre. Là. Et Michel Rocard, qui était Premier ministre, quand il est arrivé Premier ministre, il a dit on va se mettre autour d'une table et on va discuter. On a eu la paix dans les jours qui ont suivi et puis on n'a jamais eu de problème avec la Nouvelle-Calédonie depuis. Ce qui prouve que quand on veut négocier, regarder l'autre en face et le respecter, on peut arriver à des accords qui sont intéressants. Et en Algérie, je crois que les pieds noirs auraient trouvé leur compte s'il y avait eu des vraies négociations avec les Algériens. C'est toujours regrettable.
Monique n'est pas tout à fait d'accord, on verra quand on en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, donc, puisque vous parliez de bois, de colombes et de bois, dans le prologue, on parle de sous-bois. On peut en avoir un extrait pour avoir un peu un avant-goût du livre.
Oui, alors je le dis dans le prologue, c'est la seule chose que j'ai écrite parce que pour tout le reste du livre, je me suis mis à la place des personnages. Et j'ai écrit à la place des personnages à la première personne du singulier. Donc moi, en tant que narrateur, j'ai fait finalement que le prologue.
Bon, c'est déjà ça.
C'est déjà ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai écouté les autres, je les ai regardés. Alors, je vais vous lire juste le prologue, si vous voulez, comme il est très court. Un jour, assis sur un banc public, j'ai entendu la voix d'un vieil immigré qui racontait les rêves et les combats d'un peuple autrefois opprimé. Le lendemain, avec mon porte-plume pour seul outil et la parole du vieil homme pour guide, je me suis rendu dans les sous-bois du passé. Là-bas, j'ai commencé à creuser le sol à la recherche de destins anciens. Descendu jusqu'au cœur de la bataille, à côté des rêves, j'ai découvert des cris et des vies brisées. Alors, ma besace grande ouverte, j'ai tout emporté et je me suis envolé. Arrivé tout là-haut, j'ai vidé mon sac. Des porteurs de rêves s'accrochaient à mon aile. Ils ont fait le tri et tous ensemble, ils ont redessiné le puzzle de destins qui se croisèrent autrefois d'une rive à l'autre. Je n'ai fait que les regarder.
D'accord, merci. Donc, Monique, vous êtes vice-présidente de l'association France-Palestine Solidarité.
Oui.
Et alors peut-être on peut en dire deux mots de cette association. Puis après, on dira quel est le lien avec Daniel et son livre.
Oui, alors l'association France-Palestine Solidarité est une association nationale et le fruit de deux associations d'ailleurs, qui existait depuis les années 70, donc après ce qu'on a appelé la guerre des six jours, qui était l'association France-Palestine d'un côté et de l'autre côté l'association médicale franco-palestinienne. Donc ils se sont engagés dès le départ en soutien au peuple palestinien contre l'injustice qu'ils subissaient pour qu'ils aient en fait un État et qu'ils aient surtout le respect du droit international qui leur est dû mais qui n'est toujours pas respecté depuis plus de 70 ans maintenant. Voilà, donc ça c'est une association nationale qui a aujourd'hui plus de 110 sections en France. Et dont on a créé l'association dans le 04, en 2002.
2002, d'accord.
Au moment de ce qu'on a appelé l'opération Rempart, c'est-à-dire au début de ce qu'on a appelé aussi la deuxième intifada, quand Sharon, de sinistre réputation, qui était à ce moment-là le premier ministre d'Israël, est entré avec ses chars dans toute la Cisjordanie pour l'occuper de nouveau et qu'il a fait le siège, entre autres, de la Moukata où était Yasser Arafat. Mmh. Et donc ça a été une période dramatique puisque après l'espoir des accords d'Oslo, où on pensait que les deux peuples enfin se reconnaissaient, c'est pour ça que je réagissais un petit peu à ce que disait Daniel, parce que on s'aperçoit que la tragédie, elle continue d'un peuple à l'autre. Et que donc, ce qui avait permis les accords d'Oslo, où on pensait qu'on allait enfin arriver au respect de, et la création de ces deux États, eh bien, on en est arrivé à un drame où, de nouveau, les Palestiniens étaient acculés et ça a été terrible, puisque moi, j'y étais au début de la deuxième intifada en Palestine. Et on a pu voir comment allait se mettre en place ce qui est aujourd'hui un vrai système d'apartheid avec la construction des murs qui enferment les Palestiniens dans des véritables ghettos où ils ne peuvent plus communiquer les uns avec les autres, où il y a eu l'érection des checkpoints et où ils ne pouvaient plus circuler d'une ville à l'autre, où les permis se sont mis en place parce qu'on ne pouvait plus aller d'une ville à l'autre sans une autorisation donnée par l'occupant. Mmh. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a créé l'association dans le 04. Mmh. Et Daniel est notre trésorier, c'est pour ça aussi qu'il est très impliqué dans l'association France-Palestine Solidarité. Et je pense que quand j'entendais Daniel parler de l'Algérie, pourquoi en fait, parce que ce qu'il n'a pas dit quand même, ce serait bien que tu le dises, c'est que une partie donc des ventes reviendra à l'association France-Palestine pour soutenir aussi un projet que nous soutenons dans la vallée du Jourdain. Mais pourquoi fondamentalement ces deux conflits, on peut dire, se ressemblent ? C'est que ce ne sont absolument pas des conflits de religion, mais c'était bien des conflits de colonisation. Et que celui qui se passe en Palestine est bien non pas un conflit religieux comme on voudrait et comme on tend à le faire croire, mais véritablement un conflit colonial. C'est-à-dire qu'en fait, Israël veut conquérir cette terre et prend tous les moyens pour avancer et pour coloniser la terre. Et les Palestiniens se retrouvent dans la situation des Algériens, c'est-à-dire combattre pour leur indépendance et pour leur terre. Et quand j'entendais ce que disait Daniel, qui est vrai, c'est-à-dire que les pieds noirs auraient pu, sauf qu'on peut dire la même chose des Israéliens aujourd'hui. C'est-à-dire que les Israéliens, tout leur intérêt serait de reconnaître l'État palestinien, mais que malheureusement, on ne peut pas refaire l'histoire, et il y a une espèce de spirale qui fait qu'aujourd'hui, malgré la politique absolument fascisante du gouvernement Netanyahou, 85% de la population israélienne soutient le gouvernement Netanyahou. Et c'est là qu'on a quand même une contradiction profonde des peuples et de ces occupants qui, malgré tout, ont quelques avantages et qui ne se rendent pas compte, qui courent à leur perte. Et je trouve qu'il y a un parallélisme assez important dans ce domaine-là entre ces deux situations, même si ce sont des situations très différentes.
Oui, parce qu'on parle, je veux dire, il y a sans arrêt des négociations, des discussions, des presque accords, etc. Je veux dire, oui, Daniel disait, on aurait pu faire la paix, discuter, etc. Mais quand on est en guerre, en général, on fait la guerre pour aller jusqu'à la paix. En général, c'est presque l'objectif de la guerre, d'avoir la paix.
Moi, je disais, il faut discuter, mais avant la guerre.
Oui, mais souvent, même on discute. Ouais, voilà, on discute on essaie de négocier, mais en fait, ce qui concerne la Palestine, les négociations, ouais, ça fait un certain nombre de décennies.
Parce qu'on est dans la même démarche que pour la France et l'Algérie, c'est-à-dire qu'on méprise une population. On méprise une population, ce sont des sous-hommes. Donc à partir de là, ces sous-hommes n'ont qu'une solution, c'est la révolte. Mmh. Et un homme révolté, il est obligé de prendre les armes à un moment ou un autre. Et c'est ce qui est dommage.
Sauf que je pense que c'est la nature même du colonialisme, l'humiliation et le mépris de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une colonisation et un colonialisme qui soit humain.
Non, mais la discussion doit amener à la décolonisation, mais à la décolonisation de manière progressive, s'il le faut. Et des accords d'Oslo, on a pensé, on a espéré tous que ça aboutirait à quelque chose avec deux États. Bon, il est manifeste aujourd'hui que les Israéliens n'ont jamais fait de gros efforts pour laisser cette liberté du deuxième État à la Palestine. On a tous les arguments pour défendre cette thèse. Si des gens disent le contraire, je pense qu'il est facile de leur montrer que c'est pas vrai, que les Israéliens se sont toujours enfermés dans cette soi-disant négociation, mais sans rien accorder aux Palestiniens.
D'accord. Hein, oui. Non, mais de toute façon, c'est sûr que, je veux dire, pour mettre l'adversaire hors jeu, c'est sûr que c'est ce que disait Marchafsky, je crois, qui est un militant, israélien pacifiste. Et pour, voilà, et il dit ça aussi. Je veux dire, comment on met hors jeu son adversaire en le dégradant, en disant qu'il n'est pas compétent, en le méprisant. Voilà, effectivement, on peut pas se mettre en guerre avec quelqu'un qu'on estime en disant c'est des gens bien. Bon, voilà. Donc là, on dit ils font rien, c'est pas déjà intéressant, donc on prend leur terre parce qu'ils en ont pas besoin, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on le met hors jeu, hein, on le dégrade dans sa.
Donc on le met en situation de révolte.
Oui.
Voilà. Mais alors c'est ça qui est très intéressant, parce que la qualification de terroriste est extraordinaire. Les Algériens qui se révoltaient étaient des terroristes. Les Français qui se révoltaient contre les Allemands, par contre, c'était pas des terroristes, c'était des résistants.
Non, ça a été des terroristes pour les Allemands.
Pour les Allemands, c'était des terroristes.
Pour les Allemands, tout à fait. Mais on est bien d'accord. La qualification terroriste est une qualification soit terroriste d'un côté, soit résistante de l'autre.
Oui. Mais c'est toujours le dominant qui parle de terroriste.
On sent bien que en Palestine, qui sont les terroristes, c'est toujours les Palestiniens. Or, si on compare la capacité d'armement de la Palestine à la capacité d'armement d'Israël, c'est même pas du 1 pour 1000, c'est certainement encore plus énorme que ça.
Il n'y a pas d'armée en Palestine, hein. Il n'y a pas d'État de toute façon.
Et pourtant, dans l'opinion publique, on insinue que les terroristes, ce sont les Palestiniens. Or, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Gaza cet été pour se rendre compte de quel côté est le terrorisme.
Alors, pour parler d'action effective, donc le livre, il va servir. Donc, s'il y a beaucoup de livres, on espère qu'ils vont se vendre et qu'il y aura beaucoup de bénéfices. Ces bénéfices vont servir à des actions qui vont aider les Palestiniens. Est-ce qu'on peut en parler ? Qu'est-ce qui va être fait concrètement ? Qu'est-ce que fait l'association concrètement pour aider les Palestiniens ?
Alors, je laisse la parole à.
On intervient sur plusieurs plans, bien évidemment. On intervient sur le plan de l'information, parce qu'on pense qu'il est très important de contrebalancer la désinformation, si on peut dire, des grands médias, et donc de dire la vérité, non, mais tout au moins d'informer sur la réalité de ce que l'on voit et de ce que l'on partage quand on va en Palestine. Donc ça, c'est une chose. L'autre aspect, c'est de développer les liens et les relations entre les deux peuples. Donc, justement, d'une rive à l'autre. Et entre autres, par deux moyens. Un moyen qui sont ce qu'on appelle des missions. Donc, soit des missions de protection civique des Palestiniens, parce qu'on fait le travail que ne fait pas la communauté internationale pour protéger le peuple palestinien. Donc on va, par exemple, cueillir les olives dans les zones qui sont sous contrôle des colonies, donc des terres palestiniennes qui sont occupées par les colonies ou alors sous contrôle, et on aide les oléiculteurs, par exemple, à cueillir leurs olives, parce que les colons, autrement, les en empêchent ou les agressent. D'accord. Et le fait qu'il y ait une présence d'occidentaux permet qu'on puisse le faire.
C'est une présence qui est clairement annoncée. C'est une sorte de bouclier, en fin de compte.
Voilà, c'est un bouclier
de
protection.
C'est toujours, vous vous présentez toujours clairement comme étant des gens solidaires venant de l'Occident.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de développer. Alors non pas qu'on ait la prétention de solutionner le problème économique, puisqu'on est bien conscient qu'il ne peut pas y avoir d'économie réelle palestinienne sans souveraineté, sans souveraineté sur leur territoire. Ils n'ont aucun contrôle ni sur leurs matières premières, ni sur l'eau, ni sur l'air, ni sur la terre, ni sur les frontières. Donc, il ne peut pas y avoir donc de développement économique dans les conditions d'occupation, ni dans des conditions où il n'est pas cette souveraineté. Mais par contre, on peut aider ce qui peut se faire, parce que je crois que le peuple palestinien a une force terrible de résilience, c'est-à-dire de positiver son drame en construisant. C'est un peuple qui est extrêmement positif. Et donc, il y a énormément, malgré des conditions absolument infrahumaines, comme je le rappelais tout à l'heure, d'impossibilité de circuler, de destruction permanente de ce qu'ils construisent, ils reconstruisent toujours. Et donc, on a ce qu'on appelle des projets de développement. Et donc, on a, entre autres, l'association, au moment de sa création, a lancé tout un programme pour les aider à construire la filière oléicole en Palestine. Non pas qu'ils avaient besoin de nos lumières pour cultiver l'olive, mais malheureusement, si on voulait ouvrir un marché à l'exportation, il fallait que leur huile corresponde à certaines normes du commerce défini par l'Union européenne et par le monde. Et donc, il y a eu tout un travail avec eux pour construire cette filière qui n'était pas construite, puisqu'il n'y a pas d'État. Donc, chaque paysan produisait son huile, mais il n'y avait pas de remise en commun pour organiser une filière conséquente. Donc là, on a fait un vraiment très gros travail avec un expert oléicole qui venait du département, d'ailleurs, Jean-Marie Baldassari, dans l'idée aussi d'ouvrir, en fait, une commercialisation en France à travers le biais du commerce équitable. Et donc, on a tout un travail qui a abouti à ce que les Palestiniens, maintenant, gèrent complètement leur production à travers un système de coopérative. Et nous, on achète une partie de l'huile. Il y a d'autres associations qui le font, d'autres structures aussi de commerce équitable en Europe et dans le monde. Et donc, on travaille avec l'entreprise Andine à commercialiser de l'huile d'olive. Donc ici, entre autres, on vend de l'huile d'olive de la Palestine.
Et on la trouve où, cette huile?
On la trouve auprès de nous,
auprès de l'association. Pas dans des commerces?
Alors, il y a Artisan du Monde qui aussi commercialise de l'huile d'olive de Palestine à travers aussi le même organisme que nous, l'Union des familles palestiniennes et le PARC. Donc ça, c'était une action très concrète, mais qui a permis aussi, à travers le symbole de l'huile d'olive et de l'olivier, qui est commun entre la Provence et la Palestine, d'établir des ponts. Et autour, bien sûr, de l'économie, il y a aussi la culture, puisque la culture de l'olivier, c'est aussi quelque chose de très important dans l'idiosyncrasie des Palestiniens et la nôtre. Donc je crois que c'est très riche. Et donc ensuite, les Palestiniens nous ont dit, mais on a un problème fondamental qui est celui de l'eau, puisque l'eau est détournée principalement par les Israéliens. Ils ont interdiction, les Palestiniens, depuis 1967, donc depuis la réoccupation de la Cisjordanie, au moment de la guerre des six jours, ils ont interdiction de creuser des puits, interdiction de
faire des forages,
de faire des forages, etc. Donc, ils nous ont dit qu'il faut aider sur la question de l'eau. Donc, on a commencé à travailler dans la vallée du Jourdain. Pourquoi la vallée du Jourdain? Parce que c'est une des régions finalement qui seraient les plus productives et les plus fertiles en Palestine, grâce à l'eau, justement, et qui est complètement colonisée et occupée par Israël. 95% de la vallée du Jourdain aujourd'hui est annexée par les colonies. Il n'y a que 31 colonies. C'est une des régions de la Cisjordanie où il y a le moins de colonies, mais où il y a le plus de terres qui ont été accaparées et qui, entre autres, sont les plus consommateurs d'eau, entre autres, ces colonies. Pour vous dire un chiffre, un colon par jour, c'est 487 litres, et pour un Palestinien, c'est 61 litres d'eau. Donc on voit la différence, déjà, rien qu'à ce niveau-là.
C'est une culture comprise,
oui,
487 litres.
Voilà. Donc, la vallée du Jourdain, qui était peuplée avant 67 à peu près de 250 000 habitants, aujourd'hui, il n'y a plus que 58 000. C'est-à-dire qu'il y a une politique d'expulsion et de transfert qui est mise en place, effectivement. Donc, l'idée, c'était, et ce n'était pas qu'une idée, puisqu'on l'a réalisée, d'aider des Palestiniens à pouvoir capter l'eau de pluie, parce qu'ils avaient déjà des bassins avant 67, des grands bassins qui récupéraient l'eau de pluie, mais ces bassins n'avaient pas pu être rénovés depuis 67, et donc ils devenaient poreux, toute l'eau partait, et comme ils ne peuvent pas, il y a donc toute une partie de sécheresse à un moment donné, ils ne pouvaient pas garder cette eau. Donc on a participé à rénover 10 bassins dans un village qui s'appelle Aloja, dans la région de Jéricho, pour permettre à ces paysans, donc qui s'organisent entre eux, de garder cette eau. Donc ça, c'était un des gros projets aussi qu'on a mené. Et puis, tout en continuant dans la vallée du Jourdain, parce que ça nous paraît essentiel, là, nous avons donc un nouveau programme. C'est la rénovation de 45 maisons pour des Bédouins, puisque sur les 58 000 Palestiniens qui vivent dans la vallée du Jourdain, il y a plus de 15 000 Bédouins. Et les Bédouins sont doublement victimes de ségrégation en tant que nomades et en tant que Palestiniens. Et ils sont expulsés de leur terre, ils empoisonnent les troupeaux, ils n'ont pas d'eau courante. Ils ont des citernes d'eau que les colons viennent vider la nuit. Enfin, nous, on l'a vu. Ce dont je vous parle, on l'a pu le constater de visu. Hein. Et donc, entre autres, ils ont... la plupart de leurs maisons se trouvent en zone C. Alors, après Oslo, il y a eu un découpage de la Palestine par Israël en zone A, zone B, zone C. Les zones A, c'est... 4% à peu près de la Cisjordanie, ce sont les villes palestiniennes qui sont sous contrôle théorique des Palestiniens, de l'autorité palestinienne. Les zones B sont sous contrôle conjoint, soi-disant, israélien-palestinien, mais de fait, ce sont les Israéliens qui font l'appui et le beau temps. Et puis la zone C, c'est 60% de la Cisjordanie. Sont sous contrôle total israélien. Mmh. Et il se trouve que la majorité des Bédouins habitent dans les zones C. Mmh. Et donc, le programme que nous allons donc soutenir, c'est aider à améliorer les maisons qui ont été construites dans les zones C, qui peuvent être détruites à tout moment. Il y a une stratégie donc de nettoyage ethnique qui fait que les Palestiniens n'ont pas le droit de construire, n'ont pas l'autorisation de permis de construire. Ils construisent quand même parce qu'il faut bien qu'ils vivent, mais la maison peut être détruite à tout moment. Donc l'idée, c'est quand même de soutenir l'habitat en l'améliorant, parce que pour l'instant, c'est des toits tôles qui fait quand il fait chaud, c'est épouvantable à l'intérieur, quand il fait froid... C'est pareil. Mmh. Donc, de les aider à construire des maisons décentes. Et le fait qu'il y ait une intervention d'associations comme les nôtres peuvent freiner les risques de destruction. Mais freiner, entre guillemets, parce que vous savez que quand même beaucoup de réalisations qui ont été faites par l'Union européenne, qui est quand même le premier pourvoyeur financier de l'autorité palestinienne ont été détruits au cours des agressions israéliennes qui n'ont jamais cessé depuis les accords d'Oslo et qui n'ont jamais été remboursés par Israël. C'est-à-dire c'est toujours l'Union européenne qui paye. Donc on n'est qu'un petit maillon de protection. Hein. C'est-à-dire que, de fait, les Palestiniens sont quand même toujours vulnérables. Mais disons que cette solidarité-là, quand même, est importante. Elle est importante aussi pour leur donner le moral et pour montrer qu'ils ne sont pas seuls.
C'est là qu'on rejoint le livre de Daniel, voilà. Porteur de rêve. Voilà, vous êtes porteur de rêve d'espoir en faisant des choses très, très concrètes quoi, voilà. Sur des éléments essentiels que sont effectivement l'habitat et l'eau. Quoi.
Donc ces projets, on les finance par des subventions. Par exemple, on a toujours eu le soutien du Conseil général de 04 sur tous les projets qu'on a pu mener. Mmh. De la ville de Digne qui nous soutient. Il y avait pas mal de municipalités, donc, dont la municipalité de Thoar, la municipalité d'Aimé, la municipalité de Sainte-Tulle, malheureusement, avec le changement de municipalité, ils nous ont annoncé. Ça a été la première décision de la nouvelle municipalité de Sainte-Tulle, c'est de suspendre la subvention à l'association France-Palestine. Donc, pas de continuité dans le... Ça a été le cas aussi de Rayane, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme municipalité ? La Palude. La Palude. Voilà. Mmh. Et Fort-Calquier.
Et Fort-Calquier. Mmh.
Donc, ça, c'est important, parce que c'est très important. L'autre volet aussi, c'est le volet politique de l'association. Mmh. C'est-à-dire, c'est faire pression.
Donc, la Fort-Calquier et la Palud ne payent plus.
Si, Fort-Calquier et la Palud continuent à payer.
D'accord, ok. Non, non, mais voilà, parce que là, vous avez cité une succession. D'accord. Donc, Fort-Calquier vous soutient, voilà. Ainsi que la Palud.
Ainsi que la Palud.
Voilà. D'accord. Non, oui, non, parce que connaissant les élus, ça m'étonnait un peu.
C'est ça. Et donc, parce que c'est très important le travail auprès des élus, parce que c'est eux. On voit bien aussi que la solution, elle est politique, et vous avez vu que l'actualité le porte, puisque le Parlement français vient de voter majoritairement pour la reconnaissance de l'État palestinien. Et ça, c'est le troisième volet de notre association, c'est le volet de faire pression sur les élus pour que les élus prennent leurs responsabilités par rapport aux droits. Que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan européen. Parce qu'on pense que c'est comme ça que les choses évolueront. C'est-à-dire ne pas laisser les Palestiniens et les Israéliens dans un face-à-face mortel, mais que les grandes puissances, entre guillemets, puissent assumer leurs responsabilités et du moins que l'Union européenne, au moins, prenne sa responsabilité, puisque c'est le partenaire économique principal d'Israël. Donc ils ont un levier en main, et c'est donc un des moyens de nos actions, c'est-à-dire de demander, par exemple, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, en respect de l'article 2 de ces accords, qui dit que si Israël ne respecte pas les droits de l'homme, ces accords sont suspensifs. Ça n'a jamais été appliqué, mais nous, on milite pour que les élus demandent cela. Et une autre action aussi, qui est une action citoyenne, c'est l'action de boycott des investissements sanctions. Boycott, c'est-à-dire chacun, chaque citoyen, vous, moi et tout le monde, peut ne pas acheter les produits israéliens qui viennent des colonies, puisque ce sont des illégales. Mmh. Les colonies sont illégales, donc les produits sont illégaux. Et demander aussi, par exemple, on a mené une action, alors au niveau national, hein, contre la construction du métro à Jérusalem, qui était financé par Veolia et par Alstom, parce que ce métro bafouait la souveraineté des Palestiniens sur Jérusalem-Est. Et là, on est au plein cœur de l'actualité, puisque vous avez vu qu'il y a eu plein d'actions et de révoltes à Jérusalem-Est, parce qu'il y a une politique d'expulsion systématique de la population palestinienne de Jérusalem-Est, qui devrait être, selon les accords internationaux, la capitale de l'État palestinien. Et une politique de nettoyage ethnique qui est effrayante. Donc, on a d'ailleurs mené un procès contre Alstom et Veolia, qu'on a perdu d'ailleurs, mais on est en cassation actuellement. Voilà. Parce que c'est un peu la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Mais n'empêche que c'est très important de dénoncer toutes ces choses-là. Voilà.
Bon. Ça en fait des choses. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est l'association, vous avez d'autres, vous travaillez avec d'autres associations, oui. quand vous déposez comme ça, quand vous faites un procès à de grandes compagnies, vous êtes seul ou vous...
Alors là, pour le procès, on était seul avec l'OLP, d'accord. L'Organisation de Libération de la Palestine. Mmh. Par contre, nous, au niveau national, il y a deux structures importantes pour lesquels l'AFPS a été l'initiative, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la plateforme des ONG pour la Palestine, qui regroupe très, très largement du CCFD, au Secours catholique, en passant par des organisations, disons, associatives de développement, Artisans du Monde. Donc, ils sont des ONG. Et qui donc se sont regroupés au sein de cette plateforme pour faire des actions, entre autres, de coopération contre le mur, toutes les actions contre le mur, toutes les actions par rapport au tramway. Ça, c'est des actions citoyennes. Et puis, on a créé aussi au niveau national un collectif qui regroupe, alors là, des partis politiques jusqu'aux syndicats et en passant aussi par des associations. Et donc, sur le plan départemental, on a créé ce qui s'appelle le collectif Palestine 04, l'urgence de la paix et du droit, qui regroupe, effectivement. Alors là, on a On a fondu les deux structures, en fait. Hein, ça va d'Artisans du Monde, au CCFD, Terre des Hommes, le Ligue des Droits de l'Homme, le MAN, le Mouvement d'Action Non-Violente, jusqu'au Parti Communiste, la LCR, enfin, parce que c'est plus la LCR, c'est le NPA. Et non, il n'y a pas le Parti Socialiste, malheureusement. Certains syndicats, CGT, Solidaire, FSU, voilà.
Et du côté israélien, vous avez des partenaires, des associations, des militants qui vous soutiennent, qui soutiennent aussi les Palestiniens.
Depuis le début, on a travaillé avec les Israéliens. Vous citiez Warshawski, hein, oui. Donc bon, bien sûr, avec Michel Warshawski depuis le début. On travaille avec les Refusniks. On travaille avec tout ce qui est Gush Shalom, qui donc est une organisation des droits de l'homme au niveau israélien. L'UJFP, c'est en France, ça, c'est une organisation française. Depuis le début, on travaille avec, et c'est très important, et ils travaillent avec nous aussi comme ils travaillent avec les Palestiniens. C'est-à-dire que, par exemple, pour lutter contre le mur et les colonisations, toutes les semaines, tous les vendredis, il y a des manifestations dans les villages qui sont menacés par le mur, par la construction du mur. Et toutes les semaines, il y a donc des Israéliens qui viennent soutenir ces mouvements. Mais sans se leurrer, ça, c'est là qu'on rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les pieds noirs, c'est une infime minorité. Ils ont le mérite d'exister et c'est très important qu'ils existent. Mais malheureusement, c'est une infime minorité actuellement. Parce que, bon, ça serait peut-être un peu long de rappeler l'histoire, mais depuis, disons, la deuxième intifada, le début de la deuxième intifada, au moment où c'était Ehud Barak, donc un travailliste qui tenait les rênes de la Palestine, il a réussi à ancrer dans la tête de ce qui faisait le grand mouvement de solidarité pour la paix en Israël, qui s'appelait la paix maintenant, mais qui était très, très lié au Parti travailliste. Ils ont réussi à mettre dans la tête de la majorité de ces gens-là qu'il n'y avait plus de partenaires, ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, qu'il n'y avait plus de partenaires en Palestine. Et donc à partir de là, les gens se sont repliés sur la peur, sur le sentiment d'insécurité. Ils ont réussi en fait à faire croire à cette insécurité-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu des vagues de ce qu'on a appelé d'attentats qui ont renforcé cette impression-là. Et donc, depuis, on peut dire qu'il n'y a jamais eu le rééquilibrage. Et même malgré ce qui s'est passé de terrible à Gaza, parce que ce qui s'est passé cet été a été véritablement vraiment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On peut aller jusque-là. Malgré cela, ils n'arrivent pas à entraîner donc ce petit mouvement. Ce que Michel Warshawski appelle la petite roue n'arrive plus à entraîner la grande roue. Et tant qu'il n'y a pas cette grande roue-là, eh bien, les choses ne bougeront pas véritablement en Israël. Mais de toute façon, il y a plein de choses qui se font. Parce que je suis allée là la dernière fois, il y a un an, avec un Israélien, justement, voir les Bédouins menacés en Israël même, dans le Negev. C'est un mouvement qui travaille avec ce qu'on appelait des Arabes israéliens qui sont des Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire c'était les populations d'origine qui sont restées en Israël et qui s'appellent Arabes israéliens, qui ont la nationalité israélienne mais qui sont quand même discriminés, et des Israéliens. Et ça, c'est très important de faire travailler ensemble ces gens-là et de s'attaquer aussi aux racines de la pauvreté. Parce que un des problèmes fondamentaux aussi en Israël actuellement, il y a eu un mouvement des indignés, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, au moment des indignés. Et en fait, ce mouvement s'est mobilisé non pas sur les questions de paix, mais sur les questions sociales et discrimination sociale, et entre autres la question du logement. Or, la question du logement, elle est fondamentale, puisque les gens les plus pauvres, israéliens, juifs, ne peuvent pas se loger. Et qu'est-ce que font le gouvernement israélien? C'est d'inciter ces gens-là qui sont pauvres à aller s'installer dans les colonies en les aidant et en les subventionnant. Donc c'est fondamental de poser toutes ces questions-là. Et je pense qu'ils interrogent leur société et c'est très important. Et ils essaient justement de partir non plus, comme ils le faisaient avant, du conflit, mais de la réalité israélienne pour déboucher, en fait, sur la solidarité avec les Palestiniens. Et je pense que c'est la bonne démarche. Mais c'est encore très minoritaire.
Bon, on n'est pas sorti encore de cette affaire. Voilà, porteur de rêve, mais l'espoir, on ne sait pas où on va dans ce conflit.
Il faut
conflit.
Garder l'espoir.
Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais on dira ça, on en parlera quand le conflit sera terminé, on ne sait pas quand. Et quand il n'y aura peut-être plus de Palestiniens, j'espère que non.
Je ne pense pas.
Voilà. Mais c'est vrai que quand on joue sur la peur et sur la pauvreté, je pense que pendant le conflit, pendant la guerre d'Algérie, on faisait effectivement peur aux petits colons en leur disant que c'est eux qui allaient payer le plus, ce qui est toujours le cas. De toute façon, les plus riches s'en sont sortis très bien. Et voilà. Donc on joue toujours sur la peur.
Parce que moi, je suis la fille de militants. Alors, ils n'étaient pas porteurs de valises, mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait un lien avec la guerre d'Algérie dans mon engagement, parce qu'en fait, j'étais petite, donc je suis née en 50, donc 58, 54, 56, 58, mais mes parents étaient proches de la mouvance PSU et étaient engagés pour la guerre d'Algérie, pour l'indépendance de la guerre d'Algérie.
Pour l'indépendance, oui.
Et donc soutenaient. L'indépendance. Et mes parents ont reçu des menaces de l'OAS à l'époque. Je me souviens qu'on avait déplacé mon lit, etc., parce qu'ils avaient peur. Donc déjà en France, il y avait une pression énorme. Et il y avait très très peu de gens, de militants en France qui s'engageaient parce qu'il y avait cette pression. Et après, avec mon mari qui a vécu aussi en Algérie, lui il est arrivé en 62... et qui corrobore d'ailleurs tout à fait ce que disait Daniel sur un peuple qui n'avait pas de haine. On a travaillé sur un projet de film sur justement le silence et la honte. Et on a fait des interviews un peu partout en France d'anciens soldats, donc d'appelés d'Algérie, et sur le silence. Et sur comment, en fait, ce que disait Daniel tout à l'heure, pourquoi on ne parle pas de 54 encore aujourd'hui, et cette pression qui fait que ces gens ont rentré en eux tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'on leur a fait faire, que ce soit les corvées de bois, les tortures, ou assister à des choses épouvantables, brûler les villages, un peu ce que font les Israéliens en Cisjordanie. Et après, au retour, silence quoi. Silence et rien pour les aider. Et donc ça, c'est un traumatisme qui continue à peser, je pense, profondément sur la France et sur le racisme aujourd'hui, sur la montée du Front National, je pense aussi, et sur tout ce qu'on essaie de véhiculer aujourd'hui de haine. Et moi, je trouve que c'est terrible pour une fille comme moi qui a vécu 68, le retour du refoulé sur l'autre, sur l'étranger, avec tout ce qui se passe sur les Roms, sur la population immigrée, etc. Et je trouve qu'il faut être conscient de tout ça et qu'on trouve la guerre d'Algérie au cœur de tout ça.
C'est pour ça que c'est intéressant. Important d'en parler, de pas taire tous ces conflits. Donc oui, alors donc porteur de rêve. Donc Daniel, vous vouliez rajouter quelque chose sur
ce. Je voudrais dire que sur chaque livre qui est commandé sur mon site, je reverse ce qui correspond à la marge de distribution quand on vend dans le commerce, c'est-à-dire 5 € sur les 15 € du prix du livre. Je reverse à ce projet de l'association France-Palestine pour justement la réhabilitation des maisons dans 3 villages de la vallée du Jourdain. Et donc, il faut commander, par contre, le livre par Internet.
Oui, alors, où on trouve ce livre, oui.
Donc, le livre fait
15 €.
Voilà.
Voilà. L'édition, c'est Cariel B. Édition.
C'est-à-dire que je suis en auto-édition.
D'accord. Voilà.
Et d'ailleurs, j'ai appelé dessous le livre solidaire, puisqu'il faut passer par mon site qui s'appelle danielbertet.com.
D'accord. On le mettra peut-être sur le site de la radio.
Et dans ce cas-là, pour le prix du livre, il y aura 5 € reversés sur ce projet à l'association France-Palestine.
D'accord.
Solidarité. Mais alors, je reviens sur ce que disait Monique tout à l'heure, c'est qu'elle parlait du silence des appelés. Et vous avez un livre aux éditions Parole,
oui, oui.
Qui vient de sortir. Je fais de la publicité pour vos livres parce que je l'ai lu la semaine dernière et il m'a passionné sur trois nouvelles de Sophie Alfieri, oui. Qui a repris le flambeau de son père, puisque
en fait,
vous allez mieux nous raconter.
Le flambeau, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que donc, son père... a fait la guerre d'Algérie, comme beaucoup d'appelés. Il a été appelé, il était jeune ouvrier, on l'a envoyé en Algérie. Et puis, il s'est trouvé effectivement à vivre des choses qu'il a difficilement supportées. Donc, il était parti en 56-57. Et il est revenu au bout de 2 années de guerre menée sous les drapeaux. Il est revenu très, très bouleversé par ce qu'il avait vécu. Et il avait fait, en particulier, énormément de photographies. Il faisait de la photographie. Il a ramené beaucoup de photographies. Et puis, il a été tellement bouleversé par ce qu'il a vécu qu'il a mis fin à ses jours, quelques années après, jour pour jour, le jour de son incorporation, parce qu'il n'arrivait pas à digérer ce qu'il avait vécu. Donc Sophie avait 3 ans, et puis un jour elle trouve une photo de son père dans un livre de Benjamin Stora, qui est le grand historien spécialiste de la guerre d'Algérie. Elle trouve une photo qu'elle a reconnue tout de suite, parce que c'était une des photos de la série qu'elle avait dans un album qu'à la maison ils avaient de son père. Donc elle a plongé dans cet album, et derrière les photos elle s'est aperçue qu'il y avait des notes. Donc elle a commencé à reprendre chronologiquement les choses. Elle s'est aperçue d'une chose très rapidement, c'est qu'il y a des notes pendant toute une première partie. Et à partir d'un moment, il n'y a plus aucune note derrière les photos. Donc elle avait contacté Benjamin Stora en lui expliquant qu'elle avait commencé à écrire quelque chose en prenant les notes de son père. Et lui l'a encouragé à faire, donc elle a continué. Elle a écrit 3 nouvelles qui s'appellent 3 jeunes appelés dans les Aurès, qui sont assez dures pour certaines, mais qui permettent de faire comprendre un petit peu ce qu'ont vécu les appelés en Algérie.
Et en lisant ce livre la semaine dernière, j'ai eu un regret par rapport à mon propre roman, parce que dans mon roman, je ne parle pas beaucoup des appelés. Je parle des parachutistes engagés, mais les appelés, il y a un passage où je parle des appelés, ils sont sur le bateau, ils rentrent pour leur dernière perme et ils pensent à faire la fête. Mais j'ai complètement zappé cette souffrance des appelés pour ceux qui ont vécu certaines tragédies et qui ont vu des choses affreuses, cette souffrance qu'ils pouvaient porter en eux par la suite. Et là, je me suis dit, peut-être parce qu'on ne les a jamais tellement entendus parler, ces gens-là.
Bien sûr. Ben oui, on ne leur a jamais donné la parole. Mais oui, la souffrance, elle n'était pas du côté des parachutistes. Eux, ils n'avaient pas d'état d'âme, on dira. Oui. Par contre, ceux qui...
Du côté des appelés.
Voilà, les appelés, il y a eu une souffrance épouvantable. Des gens qui n'étaient pas du tout préparés à ça.
Pas du tout
préparés. Et qui n'étaient pas des guerriers, qui faisaient leur devoir de civique, était de faire son service militaire. On les a entraînés dans une guerre qui n'était pas la leur. Mais les appelés ont eu un rôle important. Moi, j'étais gamin, j'étais à Alger le jour du putsch militaire. Je me souviens très bien mes parents qui étaient aussi pour l'indépendance. On voyait passer chez nous des enfants d'amis de mes parents qui faisaient leur service, qui étaient appelés, qui faisaient leur service militaire, qui étaient étudiants, qui étaient jeunes travailleurs, etc. Parce qu'ils venaient à la maison, parce qu'on était là. Donc, et nous, on a vu passer un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas de plaisir à faire cette guerre, qui avaient à la fois peur et qui n'avaient pas envie de faire n'importe quoi. Et je me rappelle que le jour, moi, je me rappellerai toute ma vie le jour du coup du putsch, du coup d'état militaire, mes parents, devant chez nous, on habitait au champ de manœuvre à Alger, les camions militaires, tout ça, sont passés avec les soldats en armes, et ils avaient des haut-parleurs et en disant bah, l'armée prend le pouvoir, etc. Et moi, je me souviens très bien, mes parents, on était sur le balcon, donc mes parents nous ont repoussés à l'intérieur et ils se sont mis à crier « Vive de Gaulle ». C'était une affirmation de la volonté de l'indépendance, puisque de Gaulle avait pris position pour l'indépendance. Mais je veux dire, ils auraient pu recevoir une rafale de mitraillettes. Bon, mes parents ont eu ce courage-là parce qu'ils avaient... voilà. Et pour nous, c'était un exemple aussi. Ça a été un exemple toute notre vie de parents comme ça.
Et les appelés ont refusé de partir, bien sûr, vider les réservoirs, etc.
Voilà. Donc, heureusement, s'il n'y avait pas... Alors, c'est pour ça que je dis de temps en temps, les gens disent c'est bien qu'il n'y ait plus de service militaire. Mais si à l'époque, il n'y avait pas eu de service militaire...
Ah ben oui.
Si on avait eu qu'une armée de professionnels, on aurait eu le coup d'État. Je veux dire, le coup d'État a échoué parce que les appelés ont refusé de suivre les militaires de carrière. C'est pour ça que pour moi, c'est quand même à réfléchir, cette idée d'un peuple en armes, comme on a en Suisse, ne plus avoir du tout de conscrits, de gens du peuple qui sont dans cette armée, oui. C'est dangereux.
En voilà. Même temps, quand on va en Israël, c'est aussi des conscrits. Et pourtant,
oui, mais il y en a quand même un certain nombre. Il y a un certain nombre de refusnis, comme ils s'appellent. Et puis ça fait quand même à l'intérieur d'une armée, ça fait qu'il y a quand même, je dirais, un léger filet de conscience qui peut rester. Tandis que le grand danger, quand on n'a que des professionnels, ils peuvent tous dériver, quoi, ensemble. Voilà, ça me paraît...
Mais les Israéliens rencontrent le même problème. Il y a beaucoup de jeunes Israéliens qui ont fait 3 ans d'armée, qui ont assisté à des massacres, oui. Et qui ensuite sont complètement démolis sur le plan moral. Mmh. Et ça, on le cache aussi en Israël. Hein.
Mmh. Bien sûr.
L'an dernier, pour Mémoire de Résistance, on avait passé un film où il y avait justement des refusniks.
Oui, j'étais venu voir ça. Oui, c'est important qu'il y ait des gens qui témoignent qu'ils ont vécu et puis qui disent qu'ils n'ont pas envie de recommencer. C'est pour ça que ces livres porteurs de rêves ou effectivement 3 jeunes appelés dans les oreilles, c'est important de commencer à parler des choses qui ont été vécues par les uns et par les autres. C'est sûr que les appelés, on en parle peu parce qu'on leur a jamais donné la parole.
Oui, voilà. Mais ils devraient la prendre.
Oui, mais il y a la honte. Hein. Oui. Je me rappelle, moi, quand on avait fait les interviews qu'on avait fait, on avait rencontré un ouvrier donc, qui était proche du Parti communiste, donc dans l'idéologie. Et donc, on s'installe, il y avait sa femme dans la pièce, c'était des pré-enregistrements. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore la vidéo, donc c'était des enregistrements pour préparer le film. Et il commence à parler, et tout à coup, il s'effondre. Il n'avait jamais parlé devant sa femme, devant ses enfants. La femme découvrait. Et c'était la boule. Il avait un ulcère. Beaucoup d'anciens appelés ont des ulcères à l'estomac, des problèmes de santé dramatiques.
Alors pour terminer juste sur le livre de Sophie Alfieri, je veux juste parler de la troisième nouvelle, parce que dans la troisième nouvelle, il y a une lueur d'espoir, puisque le soldat rencontre une Algérienne, tombe amoureux d'elle. Et je me suis dit, c'est un peu moi, mais simplement que j'étais en temps de paix lorsque j'y suis allé. Et c'est plus facile de tomber amoureux en temps de paix que de tomber amoureux en temps de guerre, je pense.
Mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça c'est le symbole. Moi, pour moi, c'est le symbole de la relation entre la France et l'Algérie. Il est clair que la France a toujours été amoureuse de l'Algérie. Et inversement. Je veux dire, il y a une fascination entre ces deux pays, ces deux femmes pays, je veux dire. Il y a toujours eu ça. Je veux dire, l'Algérie et la France se sont toujours aimées. Mais avec des incompréhensions et puis avec des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Mais on parle souvent la même langue, etc. Puis il y a une culture qui s'est mélangée. Il y a plein de choses qui vont ensemble. Je pense que effectivement, pour moi, il y a de l'espoir. Voilà. Bon, eh ben, peut-être qu'on va en rester là parce que l'heure avance.
Simplement, on n'a pas parlé des femmes. Dans le livre de Daniel, il y a des très beaux portraits de femmes, je tiens à le dire. Voilà. Et que la femme est quand même porteuse d'avenir.
Tout à fait.
Oui, ben pour parler du travail que nous avons mené aux éditions Parole, donc il y a le livre de Sophie Alfieri, et puis il y a un autre livre qui est un peu un autre volet de cette relation entre la France et l'Algérie, qui s'appelle « De si beaux ennemis », qui sont des nouvelles de Soumia Amar Khodja, qui parle de ça aussi. D'ailleurs, sur la couverture, on a un pont, hein. C'est un pont entre les deux pays. Bon, c'est le pont de Constantine, mais c'est aussi... Voilà, il y a beaucoup d'histoires entre... Français et Algérien, une femme française qui a épousé un Algérien, etc. Et il y a cette relation qui est très, très de longue durée entre la France et l'Algérie, qui dure toujours. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant de relations entre la France et l'Algérie que depuis l'indépendance. Je veux dire, c'est encore plus qu'à une certaine époque. Ça s'est accéléré, je veux dire. Il y a un lien qui est absolument évident.
Oui, il y a flux et reflux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'amour et à la fois la haine. C'est ça qui est très surprenant. Et on n'arrive pas à dire qu'avec l'Algérie, la France a une relation qui soit sereine. Je trouve que la France a manqué quelque chose. Même après la guerre d'Algérie, même aujourd'hui, ce serait possible de dire, eh bien oui, en Algérie, on a fait des erreurs. Contrairement à ça, en 2005, par exemple, on a fait passer une loi qui reconnaît les effets positifs de la colonisation, a été quand même quelque chose de très humiliant pour les Algériens particulièrement. Je parle, il y a aussi les autres colonies. Mais oser dire qu'il faut enseigner à l'école les effets positifs de la colonisation, il y a beaucoup d'historiens qui se sont révoltés d'ailleurs à partir de cette loi.
Mais je veux dire, il faut d'abord commencer par parler des effets négatifs. Et après dire, mais il y a quand même des effets positifs. Mais on commence toujours à l'envers. Ça crée immédiatement des difficultés.
Le faire par l'intermédiaire d'une loi qui impose, c'est quelque chose de catastrophique. C'est pas comme ça qu'on instaure le dialogue. Et c'est dommage.
Voilà. Bon, ben, de toute façon, merci à tous les deux. Donc, on rappelle que le livre de Daniel Berthet, Porteur de rêve d'une rive à l'autre, Algérie-France, avec tous ces portraits de personnes qui ont souffert de cette guerre, nous a permis aussi de penser à d'autres qui sont dans la souffrance. On parle du peuple palestinien, mais aussi des Israéliens, du peuple d'Israël qui vit ce drame. Et que, bon, on espère qu'effectivement, au travers de l'association France-Palestine Solidarité, que les liens se créent entre tous les gens de bonne volonté, qu'on arrive un jour avoir quelque chose de positif.
Je me permets juste d'ajouter quelque chose, c'est que aujourd'hui on a appris la mort d'un ministre palestinien qui a été assassiné par la police ou l'armée israélienne lors d'une manifestation pacifiste. C'est absolument inadmissible. Or, nos médias n'en ont pas tellement parlé aujourd'hui. On a vu ça en sous-titres. Alors que si ça avait été un ministre israélien qui soit tué par des manifestants palestiniens, là, ça aurait fait la une des journaux. Et ça, c'est aussi regrettable que la communication se fasse de cette manière-là, de manière unilatérale, dans notre pays. Et ça, ça amène beaucoup de haine. Et c'est dommage.
Ben oui, ça, c'est... On parlait tout à l'heure des grands médias. Voilà, ils font leur choix. Ils se positionnent d'un côté. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut en parler au travers de livres, au travers d'émissions, au travers d'un certain nombre de choses. Parler autrement de l'Algérie, de la Palestine, etc., etc. Ben merci. On écoute un petit morceau de musique, puis après on vous dira merci. Voilà.
Ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'ai peur rien, c'est la vérité, vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue, ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état, plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même partant au rage. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare les familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés à l'heure où j'écris ce texte, plus des trois quarts ont été pillés. Près d'un million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On ne compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats dissimulés, foudroyant des civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Une illusion. Une illusion.
Huzun fi qalbi. حزن في قلبي حزن في قلبي
Daniel, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ?
C'est un rappeur qui s'appelle Kerry James, oui. Qui est allé en Palestine en 2009 et qui a écrit cette chanson après. Et elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle fait vraiment une synthèse du conflit israélo-palestinien. Et puis, il l'a appelé « Le cœur et la raison ». Mais à la fin de la chanson, il dit « Il faut le cœur et la raison, mais aussi le courage ». Et parce qu'il a un petit peu peur par rapport à ce qu'il a écrit, d'avoir des problèmes au niveau des médias, etc. Et on rejoint un problème de tabou. C'est-à-dire que si on se dit défenseur du peuple palestinien, eh bien, on a de la difficulté à passer dans certains médias. Et je trouve que sa chanson est très belle à réécouter.
D'accord. Bon, ben merci alors Daniel Berthet, donc on rappelle porteur de rêve d'une rive à l'autre au profit d'un certain nombre d'actions menées en Palestine pour recueillir de l'eau et conserver de l'eau. Hein, Monique nous en a parlé. Merci Monique pour toutes ces précisions sur le travail de l'association France-Palestine Solidarité France-Palestine ou France...
France-Palestine Solidarité.
France-Palestine Solidarité. On mettra un certain nombre de liens sur le site de Fréquence Mistral. Et puis, donc, je vous incite à découvrir ce livre et puis les actions de l'association. Voilà. À bientôt. Et puis, passez de bonnes fêtes. Moi, je vais dire quelques petits trucs après. On se retrouve juste maintenant pour parler d'autre chose avant la fin de l'émission. Donc, je voulais parler de peu de choses. Hein. Ce que j'appelle le droit d'auteur, c'est la page. L'émission est finie, vous pouvez couper. C'est la page publicitaire des éditions Parole. Voilà, y a un livre qui me paraît important, qui me tient, moi, à cœur, parce que ça fait quelques années qu'on l'attend. C'est un livre qui va paraître sur la vallée du Verdon, avant le lac de Sainte-Croix. C'est un travail qu'a mené Lucette Poncin, qui est géographe et historienne, et qui s'est installée tout au début des années 50 à Sainte-Croix-du-Verdon, qui a pu suivre toute cette évolution avec ses compétences d'historienne et de géographe, et avec son mari qui lui est architecte paysagiste et qui a fait une quantité de relevés et de dessins, ce qui fait qu'il y a c'est un livre qui sera très très riche, qui va paraître en janvier aux éditions C'est-à-dire, donc est une maison d'édition de Fort-Calquier. Voilà, c'est vraiment un super boulot, un livre important qui est vendu en souscription pour l'instant au prix de 32 €, mais qui va avoir une masse d'informations, de photographies, de travaux de recherche sur ce qu'était. Alors, c'est pas un livre uniquement nostalgique en disant c'était mieux avant, mais ça permet de comprendre ce qui se passait parce qu'il y avait une vie dans cette vallée. C'était pas simplement une vallée complètement vide d'habitants, et c'est un peu comme on peut dire le sujet dont on vient de parler, l'Algérie ou la Palestine. On a vidé des gens de leur territoire. Voilà, hein, c'est pas parce que c'était des gens qui faisaient rien, c'était les feignants, c'était voilà. Donc, la vallée du Verdon avant le lac aux éditions, C'est-à-dire. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi bonne fête à tous. On se retrouvera en janvier et on parlera à ce moment-là d'un certain nombre de soupes olives, puisque on vient d'en finir. Là, on fait quelques marchés de Noël pour présenter nos livres. Donc, n'oubliez pas que les livres, c'est toujours un très beau cadeau de Noël, surtout en période de crise. Je veux dire, c'est vraiment apporter de la connaissance, du bonheur. Hein. Donc, on a parlé de porteurs de rêves, mais il y a plein d'autres livres à offrir. Un livre, c'est toujours une porte qu'on ouvre chez quelqu'un dans la connaissance, même toucher les sentiments des gens, peu importe. Voilà, acheter des livres, je peux pas conseiller mieux que ça. Et puis, je voulais parler aussi d'un petit truc qui me paraît important, puisque on parle d'anniversaire. C'est aussi un peu l'anniversaire de la naissance de Rimbaud, puisqu'il est né en 1854. Hein. Et il y a un CD-DVD qui vient de paraître par... Isabelle Bloch de La Haye, qui est une chanteuse qui anime un endroit très particulier qui est le qui est Théâtre et Chansons à Aix-en-Provence. C'est un endroit très, très intéressant où il y a beaucoup de ils mettent en avant beaucoup de chanteurs dont on parle peu en général, hein, de chansons françaises ou autres. Et donc, il y a un CD DVD qui est paru avec des poèmes de Rimbaud mis en musique et chantés par Isabelle Bloch de Lay qui s'appelle « Et toi, tu marcheras dans le soleil ». Donc ça aussi, c'est un super idée de cadeau. Moi, j'ai une tendresse particulière pour Rimbaud parce que c'est grâce à lui que j'ai eu mon bac, parce que c'est le seul auteur que j'avais lu. Je l'ai passé pendant mon service militaire. Et donc, et si j'ai eu mon bac, c'est parce que je m'étais noyé dans Rimbaud pour un peu tenir le coup pendant mon service militaire. C'était un peu mon réconfort, ce qui fait que je l'avais bien digéré. Et quand je suis arrivé à l'examen de français à l'oral, on m'a dit « Mais vous avez pu travailler pendant votre service militaire ?» J'ai dit « Bah, ça a été difficile, alors choisissez votre sujet. » Alors j'ai choisi Rimbaud et puis c'est vrai que j'avais bien travaillé là-dessus. Voilà, voilà.
Redis-nous le nom de cette artiste qui a...
Alors, elle s'appelle Isabelle Bloch Delahaye. Bloch. Donc, Bloch-Delahaye, Delahaye. Le CD s'appelle « Et toi, tu marcheras dans le soleil ». Hein, ce sont des poèmes de Rimbaud chantés avec un excellent accompagnement au piano. J'ai oublié le nom du pianiste. Et donc, c'est facile. On peut le trouver sur le site de Théâtre et Chansons. Théâtre et Chansons étant un théâtre assez militant qui permet justement à un certain nombre de chanteurs d'avoir la parole. Sinon, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est à la fois du théâtre et de la chanson. Et c'est un tout petit théâtre qui se trouve à Aix-en-Provence. C'est facile à trouver. Vous tapez Théâtre et Chansons et vous trouvez le site. Et on parle du livre.
Et il reste 4 minutes, Jean. Est-ce que
et
tu
on
veux...
écoute une chanson de... Alors ça, c'est aussi un cadeau pour Noël. C'est pour les enfants. Jamil le crocodile qui perdit ses dents. Et on écoute une chanson. Et je vous propose d'écouter le rap, puisqu'on était dans le rap avec Daniel, le rap du perdant. C'est la chanson numéro 4.
Et bien, c'est voilà. Tout de suite.
En tout cas, merci à Monique et à Daniel d'avoir été là, d'avoir parlé avec beaucoup de passion de tout ça. Joyeux Noël à tous et joyeuses fêtes et compagnie. Et on se retrouve l'année prochaine. Voilà.
Merci, merci. Jean. Merci, Odile.
T'es tes pépères, sans nom tu perds tous tes repères. Dans le passé, super, perçu comme l'expert. Maintenant tes experts te regardent de travers. Partout tu excellais, mais la bouche scellée. Te voilà esselé, isolé, délaissé. Sans dénier, rien donner, dédaigneux, tu régnais. Tu étais le premier, tu deviens le dernier, pas de bol. Aujourd'hui t'es résilié, dénié et renié. Résigne-toi, t'as pas d'allié, pas de denier, pas d'obol. T'étais le plus fort, hein. T'avais besoin de personne, ben t'es plus personne, et t'as pas de renfort. Dans ton repère, t'es tes pépères, sans nom tu perds tous tes repères. Dans ton repère, t'es tes pépères, sans nom tu perds tous tes repères. Dans ton repère, t'es tes pépères, sans nom tu perds tous tes repères. Dans ton repère, t'es tes pépères, sans nom tu perds tous tes repères. Faut être bien dans tes baskets. Tes pieds, t'es pas ton cœur, ta tête. T'es des écailles, des poils, un bec. Faut pas que tu t'embêtes, faut pas que tu t'embêtes, mec. T'as mal au ventre, mange autrement. T'es trop anxieux, prends les devants. T'es fatigué, va te reposer. T'as pas d'amis, parents, cherche.
se moquent de toi. Ignore-les, crois fort en toi, en tes idées. Vis ta vie comme tu la veux. Pas d'autres règles pour être heureux. Faut être bien dans tes baskets. Tes pieds, tes pas ton cœur, ta tête. Oh, t'es des écailles, des poils, un bec. Faut pas que tu t'embêtes, faut pas que tu t'embêtes.